Bonjour. Suivre le Christ dans un monde qui change. C'est la petite série que je vous propose sur ces trois prochains dimanches. C'est moi qui vais m'en charger, tout seul comme un grand. Non, avec l'aide du Seigneur, j'espère. Et puis, on va suivre pour ça une lettre. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans le Frat News. Celle de Pierre qui écrit à différentes églises. On va le voir. Suivre le Christ dans un monde qui change. Vous avez déjà eu un petit aperçu avec Jean-Christophe Huet il y a quelques semaines de ce monde qui change. Moi, je vais aussi vous donner quelques petits aperçus de ce qui change. Ça, c'était la semaine passée. Ça vous dit quelque chose? Donc, c'est la Suisse. Hein, il y a différents cantons en Suisse. On va faire un peu d'histoire civique. Et puis là, c'est une Suisse toute verte. C'est assez rare. D'habitude, c'est rouge d'un côté puis vert de l'autre. Mais là, il y a tout qui est vert et largement vert, et c'est, vous avez reconnu, la votation pour le mariage pour tous qui a été largement acceptée. Je vous mets une autre qui peut peut-être un peu nous rassurer, j'en sais rien, où on voit que c'est peut-être plus disparate si on prend commune par commune. Mais toujours est-il qu'on a vécu dimanche passé un changement sociétal important pour la Suisse et qui va avoir des conséquences pour les années à venir. Un autre truc qui change, c'est que on a souvent ce genre de petits panneaux, on ne les regarde plus parce que ça nous énerve de les regarder. Mais ils existent toujours. La preuve, ce matin, on a un culte qui est à moitié plein, voire au tiers plein, parce qu'il y a ces restrictions sanitaires qui sont là. Et puis, on est comme un peu habitué, lassé peut-être, on a toutes sortes de sentiments par rapport à ça, mais c'est aussi visiblement quelque chose qui change actuellement dans notre société et qui est bien là. Quelque chose qui change aussi, c'est que on commence à écouter les conférences de presse du Conseil fédéral. Qui avait écouté une conférence de presse du Conseil fédéral avant la crise du Covid? Vous pouvez lever la main. J'ai même entendu que ça n'existait pas. Alors oui, ça existait, mais effectivement, personne ne les écoutait. Parce qu'on avait confiance, tout roulait, tout allait bien, et tout à coup, à partir du 13 mars 2020, on est tous derrière notre petit écran à 14h15 le vendredi pour savoir à quelle sauce on sera mangé. Mais encore un truc qui change, tout à coup, on a eu rapport aux autorités. Les autorités sont descendues visiblement jusque vers nous de manière explicite, et ça, c'est aussi un changement, je pense, assez majeur. Et finalement, cet été, enfin moi je n'y étais pas, mais beaucoup d'entre nous étions les pieds dans l'eau, surtout à Yverdon ou à Bienne. Et puis là, c'est tout ce changement qui est bien plus massif, peut-être moins perceptible directement, de ce changement climatique, qui est là aussi appelé à durer pour ces 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et nous sommes dans ce monde qui change. Nous sommes dans ce monde qui n'est pas stable. Alors comment finalement habiter le monde tel qu'il se présente? Comment habiter le monde en chrétien tel qu'il se présente à nous et pas tel que nous voudrions qu'il soit? Mon but ce matin, ce n'est pas de faire une analyse négative pour dire tous ces changements, oh là là, comme c'est terrible, qu'est-ce qu'on va vivre, et puis de se crisper en tant que chrétien, parce que c'est une réaction qu'on a assez régulièrement. On se dit, oh, le monde va mal, mais nous, heureusement, nous sommes le petit reste sains et vigoureux qui vont alors sauver tout le reste de la planète entière. Puis on est fiers de l'être, ce petit reste. Hein. On se tape un peu la poitrine, on se dit, on a tout compris, on regarde et on se met finalement à distance de ce monde qui va mal. Très mal. C'est pas ce que va nous dire Pierre. Il va plutôt nous proposer de répondre à cette question, comment habiter le monde tel qu'il se présente, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, puis qu'on va faire de toutes nos forces pour changer, puis essayer d'influencer les hautes sphères politiques. Je ne crois pas que c'est ça qu'il nous demande de faire, mais de l'habiter avec qui nous sommes en tant que chrétiens. Comment habiter le monde tel qu'il se présente? Alors nous allons le faire simplement en écoutant le texte. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, parce que vous allez voir que la lettre parle, je trouve, d'elle-même, puis après que cette petite introduction, ça nous donne à nous tous, par rapport à notre propre sensibilité, une manière de nous positionner, une manière aussi d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire, je crois, personnellement et en communauté. Et nous allons nous mettre à l'écoute de Pierre. Et puis, comme j'aime bien un peu deux, trois petites punchlines, je vous la mets derrière. Comme ça, vous êtes obligés de bien écouter. Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Je bim, comme ça. C'est fait. Vous savez qu'est-ce qu'il a prononcé, cette phrase? Vous savez qui est l'auteur? Non? Pardon? David Rosset. David Rosset, ouais, il la prend pour lui, mais c'est quelqu'un de plus grand que moi. Moi, j'étais sûr que c'était un réformateur, genre Calvin, ou bien Farel, ou bien Pierre Viret, comme ça, des gens massifs. Ben non, c'est un catholique. Encore plus ancien, c'est Saint Jérôme, celui qui a traduit pour la première fois la Bible en latin. Donc, je pense qu'il avait aussi un rapport assez fort aux Écritures. Saint Jérôme, qui a vécu au 4e siècle, celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Alors, nous ne voulons pas ignorer ni les Écritures ni le Christ, et nous allons nous mettre à leur écoute. La lettre de 1 Pierre, elle nous plonge dans un monde qui fait une main pas si différent que le nôtre, parce que de tout temps, et particulièrement les premiers chrétiens, ils ont dû s'habituer à habiter un monde qui changeait. Le monde, finalement, il n'a jamais été stable sur des rails où tout va bien, tout est prévisible, et puis où tout, en tant que chrétien, est facile à vivre. Ça n'a jamais été le cas. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on pourrait avoir ça en tête, d'ailleurs. Ça ne s'est juste jamais passé
dans l'histoire. Et puis, pour les premiers chrétiens, eux, ils avaient beaucoup de choses qui changeaient parce que leur présence, leur simple présence, pourtant, qui était très minime, qui ne faisait pas beaucoup de bruit, elle a commencé à titiller jusqu'au pouvoir impérial. C'est marrant, hein? Un tout petit nombre qui n'était vraiment pas très dangereux, dès le début, ça a titillé, on a des traces historiques, jusqu'au pouvoir impérial. On les a même accusés, en 64, donc assez vite, hein, d'avoir été les instigateurs d'un incendie qui a détruit Rome, et ils ont subi leur première persécution. Pierre, il écrit certainement après cette persécution dont il a dû entendre parler. Ce n'était pas directement dans les églises là où il était. Et puis, une des réponses qui a été forte du pouvoir romain et qui a changé, parce que c'est une évolution qui est due à la présence des chrétiens, c'est qu'ils ont mis, les empereurs romains, beaucoup plus d'accent sur la nécessité pour tous les habitants de l'Empire de participer au culte impérial. C'est-à-dire qu'on devait de plus en plus, de manière manifeste, rendre un culte à l'empereur qui était finalement une espèce de souverain de droit divin qui pouvait imposer toute sa volonté à ceux qui l'écoutaient et ceux qui habitaient indépendamment de leurs opinions. Et les chrétiens, ils étaient un peu tiraillés par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? Comment on se positionne par rapport à cela? Voilà dans le monde dans lequel ils étaient. La lettre de Pierre, ce n'est pas une lettre qui est adressée à une église en particulier. C'est une église qui est multiple, j'ai envie de dire. C'est plusieurs églises dans une partie du monde maintenant qu'on connaît assez peu, en tout cas qui est assez peu christianisée. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. En Asie mineure, en Turquie actuelle. La lettre, je pense, et puis plusieurs spécialistes pensent, qu'elle a circulé dans différents endroits, puis c'était une forme de condensé de la foi chrétienne. Donc c'est du coup une lettre assez générale, qui évoque plusieurs aspects de la vie chrétienne, sans entrer dans des détails très personnels, comme on peut l'avoir, par exemple, avec les lettres de Paul, où il donne des nouvelles personnelles, où il se mouille beaucoup. Là, c'est une lettre qui est de portée assez générale, puis je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle on peut la faire nôtre aujourd'hui. Elle est écrite par Pierre ou un de ses secrétaires, et puis ça, je trouve que c'est aussi important, parce que ce n'est pas une lettre qui est désincarnée. Elle s'adresse d'une personne à une communauté. Elle s'adresse avec qui se mouille, quoi, qui y va aussi, et puis qui dit ce qu'il a compris du Christ et qu'il essaye de transmettre à d'autres. Et le but de cette lettre, on le trouve notamment dans 1 Pierre 4, verset 12, où Pierre dit à ses différentes communautés, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc là, il fait descendre le truc, il dit, en fait, ce qui se passe aussi pour nous, on peut se dire, voilà, ça s'embrasse, ça part dans tous les sens, on ne sait plus dans quel sens ça va aller, c'est difficile à retrouver nos repères. Finalement, ce n'est pas pour hausser les épaules, mais c'est pour nous inviter, je trouve, à être ancrés, puis se dire, on n'a pas à être surpris de cela, c'est la réalité telle qu'elle se présente. Et puis là, je pense que ça nous calme finalement, ça nous pose, puis ça nous permet de regarder la réalité en face. Et puis finalement, j'ai choisi cette lettre de 1 Pierre parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, parce que pour moi, personnellement, c'est une lettre dans laquelle j'aime bien me replonger, spécialement quand je me pose pas mal de questions. je trouve que c'est une lettre qui fonde, c'est une lettre qui remet l'Église au milieu du village, comme on dirait, mais qui remet des perspectives et des fondements solides. Alors voilà ce qu'elle a à nous dire. Maintenant que vous avez tout ça, vous allez quand même être surpris, je pense. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis, nous, chrétiens, et nous qui vivons, comment ? En étranger dans la dispersion, dans le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, sur la côte en Suisse. Ces chrétiens, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ, on va le vivre tout à l'heure. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, mon frère. Mes frères et sœurs. On a besoin de cette grâce et de cette paix, et on a besoin non seulement qu'elle soit là, mais qu'en plus elle soit multipliée. Je suis en train d'apprendre les multiplications avec mes enfants, c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement une addition, mais que ça se multiplie. Il n'a pas dit que la grâce et la paix vous soient additionnées en plus de toutes les autres bénédictions, mais que ce soit multiplié. Il y a vraiment un élan qui est beaucoup plus fort que ça. Multiplié dans quel sens ? Parce qu'il nous donne une clé déjà sur notre rapport au monde. Est-ce que l'on consent, et je ne peux pas faire un petit sondage, mais je vous laisserai répondre dans vos cœurs, est-ce que l'on consent, en tant que chrétien, à assumer notre identité d'étranger ? Pas l'identité qu'on préfère. Hein. D'étranger, non seulement c'est ça, mais d'étranger en dispersion dans le monde, ça veut dire d'être un peu parachuté de gauche et de droite. Dispersé, ça signifie un peu qu'on est dans un état de faiblesse. Hein. Ce n'est pas les chrétiens qui sont tout-puissants, qui dominent tout, peut-être que ça a pu être à certaines périodes de l'histoire, mais qui sont dispersés un peu comme des petits troupeaux égarés aux confins des différentes parties du monde. Pierre met souvent dans sa lettre en garde les chrétiens, le fait d'être décalé par rapport à la société ambiante, par rapport à des convictions fortes qui sont les nôtres, décisives, qui ne sont tout simplement pas comprises par celles et ceux qui nous entourent. Ils ne comprennent pas comment on peut croire en un Dieu qui existe vraiment. Ça, c'est assez régulier. Puis alors après, quand on leur dit qu'en plus ce Dieu, il a été fait homme à travers Jésus-Christ, qu'il est né d'une vierge, alors là, c'est encore pire. Puis en plus, qu'il est ressuscité des morts, alors là, on perd tout le monde. On est décalé, on est en diaspora, on est finalement étranger par rapport à des convictions fortes qui sont les nôtres et qui sont mal comprises, voire pas du tout comprises. Donc on est vraiment, si on regarde vraiment qui on est étranger et en décalage. Et puis en creux, ça signifie aussi ce terme de dispersion, et nous allons le voir dans la prochaine prédication que je vais faire dimanche prochain, ça souligne vraiment la nécessité d'une communauté de croyantes et de croyants, sinon la dispersion que nous sommes amenés à vivre, elle est insoutenable et impossible à vivre, tout simplement. Si on n'est que en dispersion, individuellement placé dans nos différents contextes, sans la réalité communautaire, c'est cuit. Autant arrêter tout de suite, ça ne vaut même pas la peine de continuer. On va voir dimanche prochain l'importance justement de ce tissu communautaire, de ce ciment communautaire, pour simplement assumer notre identité là individuelle d'étrangers en dispersion dans le monde. Et voilà qu'est-ce qu'il nous dit ce Pierre. Il commence par louer le Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, cet héritage qui vous est réservé, non pas à la banque Raiffeisen, mais dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Valérie en a déjà dit un mot en introduction de sa louange, je ne vais pas m'étaler dessus, mais une attitude, et c'est la première attitude, c'est une attitude de prière et de louange. Comment est-ce que je commence ma journée ? Est-ce que je suis dans une attitude de prière et de louange pour commencer ma journée ? Est-ce que c'est mon premier réflexe lorsque je me lève ? Pour le culte, généralement, on est pas mal parce qu'on commence par la louange. Donc c'est bien, un bon point pour nous. Mais c'est vrai que ce n'est pas qu'une tradition, parce que moi, souvent, j'entends la remarque, en fait, le culte, c'est toujours la même chose, louange, message, scène, machin. Hein. C'est peut-être un peu plus profond que ça, la réflexion qu'il y a derrière, et puis pourquoi on fait les choses ainsi. C'est une manière pour nous, quand on rend un culte à Dieu, parce qu'on ne vient pas à l'église pour se faire du bien d'abord, on vient d'abord pour rendre un culte à Dieu, de nous placer devant Dieu, de dire qui il est pour nous, et finalement, nous, de notre foi, d'essayer de la mettre un peu en orbite, pas seulement engluée dans nos réalités d'ici-bas, mais de la connecter à Dieu, qui est dans les cieux. Puis ça, c'est pas mal si on peut le faire au début, puis ensuite on se met à l'écoute de Dieu d'une certaine façon. Donc peut-être qu'il y a une certaine logique, mais on ne va pas ouvrir le débat là-dessus. Mais cette louange nous permet de compter, ça j'étais assez fier de moi sur ce petit truc-là, de compter les promesses de Dieu et de compter sur les promesses de Dieu. Pas mal, hein? On peut compter parce qu'il y en a énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, je fais des additions avec mes enfants. C'est souvent sur les doigts. Et on peut compter sur. Et c'est deux choses assez différentes. Parce que compter, ben voilà, je dirais que c'est assez facile. On peut faire la liste, on peut faire la checklist, c'est très à la mode, puis regarder combien il y en a, puis se rassurer là. Mais compter sur, ça veut dire vraiment les faire descendre dans mon cœur, dans mes tripes. Que quand ça commence un peu à tanguer et puis que le fait d'être étranger, ça commence vraiment à me casser les pieds, est-ce que je compte sur cet héritage impérissable? Est-ce que je compte sur le fait que Dieu me garde par sa puissance? Ou est-ce que je commence à trembler puis faire comme les disciples dans la barque puis de me dire que ça ne va pas aller? Est-ce que j'arrive à garder cela en tête et de compter sur, et pas simplement de le savoir parce qu'on me l'a appris depuis que je suis tout petit? Est-ce que j'arrive à l'expérimenter vraiment? C'est ça que nous dit ce texte. Et c'est ça que nous dit cet acte de louange. Et j'ai l'impression que quand on loue, et particulièrement quand on loue ensemble, il y a une perception, puis il me semble qu'on l'a vécu tout à l'heure, plus concrète de se compter sur. De se compter sur les promesses de Dieu qui vont nous accompagner toute la semaine. Qui ne vont pas rester là simplement comme des éléments théoriques, mais qui vont nous accompagner toute la semaine. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Amen. Je vais terminer là-dessus, sur ces magnifiques versets, pour nous encourager, en tant qu'Église et en tant qu'individu, à prendre soin de notre foi. Est-ce encore un objectif dans nos vies ? Prendre soin de sa foi. Vous avez vu les termes qui sont employés, c'est des termes qui vont fort, parce qu'il est conscient de la souffrance qui est la nôtre, il est conscient de la situation qui est la nôtre dans notre monde, et notre foi, finalement, s'éprouve au contact de cette réalité-là. Elle ne s'éprouve pas en planant au-dessus des réalités, puis en planant au-dessus de ce qui nous est offert. Comment habiter le monde tel qu'il est? En prenant soin de sa foi. C'est la réponse que Pierre nous donne. En prenant soin de cette attitude de louange. En prenant soin de faire descendre ces promesses qui sont pour moi aujourd'hui dans le monde dans lequel je suis. En vue de cette espérance vivante. On n'est pas là pour se lamenter puis avoir ce regard négatif sur le monde. C'est impossible parce que là, on perd ce côté d'une espérance vivante. On devient larmoyant, on devient négatif, on devient aigri. On commence à accuser tout le monde de tous les maux. Je ne pense pas que c'est ça l'espérance vivante. Hein. Comment habiter le monde, c'est prendre soin de notre foi pour continuer d'avoir ce même regard de Dieu sur le monde, un regard d'amour sur le monde. Et ensuite, on a des buts, des critères qui permettent de voir si on est dans cet état-là. C'est ce que Pierre nous dit finalement. Une joie indicible et glorieuse. Toujours trouver un bon critère, la joie. Hein. Où on en est par rapport à la joie de notre foi. être finalement transporté, pas englué, mais transporté dans une autre réalité. Et là, je crois aussi que pour prendre soin de notre foi, l'exemple des premiers chrétiens peut nous aider. Parce que si Pierre doit le souligner aussi fort dans sa lettre, c'est que pour eux aussi, il y avait un enjeu. Ce n'est pas naturel, on ne le fait pas en claquant des doigts. Pour eux aussi, il y avait un enjeu. Et pour eux aussi, il y avait cette discipline de prendre soin de sa foi. Alors que nous puissions tenir bon, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre soin de notre foi ensemble, en nous aidant, en nous interpellant finalement aussi les uns les autres. Et puis comme ce texte nous le dit, au tout début, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen.